Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal Maria Melkurdi, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Mort à l'Amérique, c'est le slogan qui a résonné dans les rues de Bagdad ce matin lors des funérailles monstres du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain la nuit de jeudi à vendredi. Nous y reviendrons. Au sommaire également, l'Australie qui continue de suffoquer, plus de 100 000 habitants du sud-est évacués à cause des incendies. Nous irons à Canberra dans ce journal. Nous serons aussi en ligne avec Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Il faut rendre hommage aux forces de l'ordre. Déclaration ce matin du maire de L'Isle-les-Roses. Après l'attaque au couteau dans la commune voisine de Villejuif, le carnage a été évité selon lui. Les retraites, l'épisode du bras de fer continue ce week-end, à quelques jours de la reprise des négociations. Enfin, la prescription culturelle de la rédaction, Dracula, on connaît le film, eh bien la série débarque sur Netflix.
France Inter.
Donald Trump a-t-il lancé un bâton de dynamite dans une poudrière, comme l'affirme son adversaire démocrate Joe Biden ? En tout cas, le Moyen-Orient est en ébullition depuis l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par un drone américain à Bagdad la nuit de jeudi à vendredi. La tension continue de monter entre Washington et Téhéran. Le terrain de bataille, c'est l'Irak, pris en étau entre ses deux alliés ennemis. Un nouveau raid américain a été mené la nuit dernière contre les pro-Téhéran en Irak. Attaque contre un convoi de Hashd al-Sharbi, la coalition de paramilitaires pro-Iran, désormais intégrée à l'État irakien au nord de Bagdad. Selon une source policière, il y a eu plusieurs morts et des blessés. Depuis la mort de Qassem Soleimani, Téhéran promettent une dure vengeance. Des appels à la vengeance repris dans la rue par des milliers d'Irakiens et d'Iraniens. Aujourd'hui, funérailles en grande pompe dans un quartier chiite de Bagdad ce matin. Correspondance à Beyrouth, Aurélien Colli.
Mort à l'Amérique, vengeance, voilà sans surprise les slogans qui ont accompagné ce matin le cortège funéraire du général Soleimani, de son principal lieutenant en Irak, le chef de milice Abu Mehdi al-Muhandis, et des 8 autres cadres pro-iraniens tués dans le raid américain de jeudi soir. Dans la foule qui accompagnait les cercueils, des drapeaux irakiens, mais aussi les étendards blancs ou jaunes, des milices chiites pro-iraniennes et des portraits du guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei. Parti d'un sanctuaire chiite de la capitale, le cortège s'est dirigé vers la zone verte ultra sécurisée où l'ambassade américaine a été attaquée mardi dernier par des manifestants pro-iraniens. Seuls les pick-up transportant les cercueils sont entrés dans cette zone sanctuarisée pour une cérémonie officielle en présence de hauts responsables irakiens, tous proches de l'Iran. Ce soir, la dépouille du général Soleimani sera transportée en Iran pour une cérémonie officielle dans la capitale lundi matin, puis un enterrement dans sa ville natale, Kerman, mardi. Une longue séquence funéraire à la hauteur de la place centrale qu'occupe le général Soleimani dans le régime iranien. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Alors, quelles peuvent être les conséquences de l'attaque américaine dans la région ? Ce raid va déclencher une guerre dévastatrice en Irak, selon le premier ministre irakien démissionnaire Adel Abdel Mahdi. Il devrait soumettre demain au Parlement une demande de retrait des 5200 soldats américains stationnés en Irak dans le cadre de la coalition antiterroriste. Mais Donald Trump persiste et signe. Selon lui, Qassem Soleimani préparait des attaques imminentes contre des diplomates et des militaires américains. Argument peu crédible, selon Thierry Coville, spécialiste de l'Iran. Il était l'invité de France Inter ce matin.
Cet argument sur les intentions, on tue quelqu'un parce qu'il y a les intentions d'eux, ça me rappelle des mauvais films de science-fiction que je vois. Je pense que c'est pas crédible. D'ailleurs, j'ai entendu dire que les démocrates sont en train de demander où sont les preuves. Donc là, je pense que c'est pas crédible. Moi, je crois plutôt, effectivement, que les Américains ont vu une opportunité. Et ils considèrent que c'est aussi une façon, et là, je pense qu'ils commettent une erreur, quelque part, de freiner aussi le développement de l'influence iranienne dans la région, parce qu'il faisait de Soleimani une personnalisation. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre sa place et ça va continuer. On est habitué avec Donald Trump pour rester analyste, mais il dit tellement d'énormité. Traiter Soleimani de terroriste numéro un dans le monde, c'est un militaire de carrière qui a commencé sa carrière dans la guerre Iran-Irak où il a gagné ses rangs. Il s'est battu quand même contre l'État islamique. Je pense pas que, si vous voulez, il n'était pas dans l'optique de tuer des civils. Il est célébré comme un héros par tout un pays. Oui, et d'ailleurs, le gouvernement iranien, excusez-moi, mais utilise pleinement sa mort pour célébrer le côté martyr et faire oublier un petit peu les dissensions liées aux répressions récentes.
Thierry Coville de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran. Il était notre invité écouté ce matin. Interview à réécouter sur notre site internet. Conséquence, on l'a entendu, un risque d'escalade dans la région. Inquiétude côté Occident. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo reproche aux Européens de ne pas avoir été aussi utiles qu'ils auraient dû l'être dans cette attaque contre le général Soleimani. Mais les États-Unis semblent bien isolés. À l'exception d'Israël, la majorité des dirigeants mondiaux se gardent bien d'apporter leur soutien, notamment les Européens. Paris, Londres, Berlin, Bruxelles, tous appellent à la retenue, à la désescalade. Les puissances européennes se disent aussi inquiètes face à un risque de prolifération nucléaire, voire de montée du terrorisme. Mais au-delà des mots, quelle est la marge d'action de l'Union européenne? Une fois de plus, elle semble bien faible, Marie-Pierre Véraud.
Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en 2018, puis la décision de l'Iran de reprendre la production d'uranium enrichi, l'Europe semble réduite à compter les points entre Donald Trump et la République islamique. Elle n'est même pas parvenue à mettre sur pied un mécanisme pour adoucir le poids des sanctions américaines qui asphyxient l'économie iranienne. Le poids du dollar commande et contraint fortement l'action diplomatique de l'Union. Quant à réduire les tensions entre les deux ennemis, dans son exercice solitaire des relations internationales, Donald Trump n'a cure de consulter des alliés qu'il n'hésite pas à humilier. La tentative française d'organiser une rencontre au sommet, les présidents Trump et Rouhani l'ont torpillé sans état d'âme cet automne. Et ces derniers jours, le cycle des représailles s'est emballé entre deux ennemis qui semblent seuls face à face. L'impuissance de l'Europe ne saurait être exposée de manière plus éclatante qu'à la faveur de cette nouvelle crise.
Marie-Pierre Véraud pour France Inter. Conséquences directes et immédiates de l'attaque américaine. La crainte pour la sécurité des ressortissants occidentaux en Irak. C'est pour cela que la coalition internationale anti-Daesh réduit ses opérations sur le terrain, affirme un responsable américain. L'OTAN suspend également ses missions d'entraînement en Irak, affirme un porte-parole. Un ciel noirci, une fumée étouffante, cauchemar en Australie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes évacuées dans le sud-est à cause des incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs jours. En trois mois, il y a eu plus de 23 morts, près de 1500 maisons réduites en cendres. Aujourd'hui, il s'agit de sauver des vies, a déclaré la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud. Gaëlle Joly s'est rendue à Canberra, dans le sud du pays, auprès des sinistrés. Reportage.
Ils avaient imaginé leur premier de l'an allongé sur le sable doré de Mystery Bay. Mais pour Ben, Amy, leur petit garçon et leur bébé, la soirée du réveillon a viré au cauchemar.
Dans la nuit, je surveillais les feux sur mon téléphone. J'ai vu arriver les flammes vers nous et le matin, le ciel était tout noir, teinté de rouge. Les feux étaient tellement gros que des éclairs se sont formés. On était juste en dessous et on a entendu des coups de tonnerre effrayants.
Very loud thunder going off above.
I felt nervous because there was a
Moi,
lot of
smoke. Moi, je me suis sentie très stressée. Il y avait beaucoup de fumée. Il faisait noir, le ciel virait au rouge orangé, et j'étais angoissée pour mon bébé parce que c'était difficile pour lui de respirer. Et encore aujourd'hui,
I was worried for him because it is harder for him to breathe in those times, and he still is coughing quite a bit.
Prise dans les brouillards, la famille fuit la plage pour se réfugier dans les terres. Pourtant, ce n'est pas leur premier feu de brousse, mais celui-là s'est montré exceptionnel.
Nothing we've ever seen before. Like it was so huge and covered such a large area.
J'avais jamais rien vu de tel. C'était tellement immense, tellement étendu, avec une incroyable vitesse.
And it was very, very widespread.
De retour à Canberra, installée dans son canapé à l'abri, son bébé dans les bras, Amy a pourtant guetté l'horizon toute la journée dans l'angoisse de voir surgir les flammes.
Reportage Gaëlle Joly avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. Les incendies en Australie, en chiffres et en images, dossier à retrouver sur notre site internet franceinter.fr. On vient de l'entendre, l'Australie ravagée par de puissants incendies. Avec nous, en invité aujourd'hui, Sébastien Treyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Comment expliquez-vous ce phénomène impressionnant en Australie, une conséquence directe du réchauffement climatique ?
Je pense que le changement climatique est bien un des facteurs qui rend possible ce genre de catastrophe qui est liée à la sécheresse, au manque de précipitations, à l'augmentation des températures, au vent, etc. Et c'est cette accumulation d'événements extrêmes. Aujourd'hui, je crois que les scientifiques n'hésitent plus à attribuer cette augmentation de la fréquence de tels événements extrêmes au changement climatique. Donc oui, je pense qu'il y a causalité entre le changement climatique et ce qu'on voit aujourd'hui en Australie.
Est-ce que c'est un phénomène qui peut être maîtrisé ?
Alors là, moi, Moi, je suis pas un spécialiste de la lutte contre le feu. Hein. Et ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que l'Australie est quand même un pays qui est habitué à très forte variabilité climatique. C'est un pays où les sécheresses ont été souvent beaucoup plus fréquentes et incertaines que ce qu'on voit dans d'autres régions du monde. Et je suis frappé de voir que ce pays développé, qui est habitué normalement à une forte variabilité climatique, n'a pas su ou n'est pas encore à la mesure de la préparation face à cette catastrophe qu'on voit aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est vraiment marquant de voir l'impréparation australienne, un pays dont on aurait pu penser qu'il devrait être préparé normalement. Et c'est pour moi un signal du fait que le changement climatique va nous amener des événements auxquels on n'est pas aujourd'hui capable de se préparer.
On n'est pas suffisamment préparé. L'Australie fait partie des pays, justement, des grandes puissances qui, comme le Brésil ou les États-Unis, ont empêché l'avancée lors de la COP25. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est dû à une politique environnementale du pays insuffisante ?
Écoutez, moi je pense qu'effectivement l'Australie a joué vraiment un combat d'arrière-garde à la COP25 sur des points en plus qui étaient relativement techniques et c'était assez incompréhensible de voir l'Australie mettre des grains de sable dans l'engrenage. Et effectivement, on a un gouvernement australien qui joue vraiment la carte de ne pas lutter contre le changement climatique. L'Australie est le premier exportateur mondial de charbon. Sa propre production électrique dépend à 60% du charbon et on voit un gouvernement qui n'est pas du tout enclin à faire des efforts de ce côté-là. En même temps, je pense qu'il ne s'agit pas de culpabiliser le gouvernement australien pour cette chose-là. Et moi, je pense que c'est surtout, il faut voir que c'est une crise absolument terrible pour l'ensemble des Australiens aujourd'hui et que c'est surtout un symbole du fait que si on n'agit pas contre le changement climatique, ces phénomènes vont se répéter et se multiplier sur la planète. On se souvient de l'ouragan Sandy à New York en 2012 où on voyait la plus grande métropole, une des plus grandes métropoles du monde où il y a le grand centre financier de la planète, qui n'était pas non plus capable de faire face aux événements climatiques extrêmes. Et donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'utiliser cette catastrophe pour faire comprendre que c'est ça la crise climatique, cette accumulation d'événements extrêmes. Et j'espère que des acteurs australiens sauront s'en saisir pour faire entendre raison à leur propre gouvernement.
Alors, une crise extrême, des gouvernements pas suffisamment préparés, comment fait-on pour se préparer justement ?
Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est surtout d'éviter que le changement climatique devienne encore pire. Hein. Je pense que la grande leçon, c'est qu'il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Il n'est pas trop tard.
Il n'est jamais trop tard pour agir. Ouais. On peut encore essayer de faire... En tout cas, plus on tarde à agir, plus ça sera terrible. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment le plus vite possible d'arrêter la production de charbon et l'exportation de charbon. C'est ce qu'on a demandé, ce que le secrétaire général des Nations Unies a demandé à tous les pays de l'OCDE de sortir du charbon avant 2030 et qui ne font pas aujourd'hui. Ensuite, de toute façon, il va falloir qu'on soit encore plus capable de coopérer à l'échelle internationale pour faire face à des événements extrêmes comme ceux qu'on voit aujourd'hui en Australie et face auxquels on est aujourd'hui tous très impréparés.
Merci beaucoup Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci d'avoir été avec nous en direct sur France Inter. Les fumées des incendies de forêt en Australie ont atteint la Nouvelle-Zélande, pourtant située à des milliers de kilomètres de là. Le glacier Franz Josef a pris une coloration ocre en raison des fumées. Les images circulent actuellement sur les réseaux sociaux, elles sont impressionnantes. En Indonésie, des dizaines de milliers d'habitants se retrouvent sans abri après les inondations qui ont frappé la région de Jakarta. Elles ont fait 53 morts selon les autorités. La catastrophe la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 en Indonésie.
Le journal de 13h sur France Inter.
Un mort et deux blessés, bilan de l'attaque au couteau hier à Villejuif dans le Val-de-Marne. Mais le bilan aurait pu être bien plus lourd. L'assaillant, un homme de 22 ans, avait des troubles psychiatriques. Il a été tué par des policiers après l'attaque, ce qui l'a empêché d'aller plus loin. En pleine journée dans un parc, l'homme armé d'un couteau frappe au hasard des passants. Il court ensuite sous l'autoroute A6, se dirige vers un centre commercial de la commune voisine, L'Haÿ-les-Roses. C'est là qu'il est stoppé par une équipe de la BAC. On a évité le carnage, estime aujourd'hui le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun.
Il faut vraiment rendre hommage aux forces de l'ordre pour leur réactivité, leur sang-froid, puisque en réalité, cet individu que j'appelle l'assassin s'est préparé dans le parc adjacent. C'est au sommet d'une colline qui donne sur l'autoroute A6. Il en est descendu avec la ferme intention d'aller jusqu'au centre commercial. Et les premières victimes qu'il croit sur son chemin sont dans le parc. Malheureusement, comme vous le savez, il y a eu un mort et deux blessés graves. Il va menacer de son couteau une dizaine de personnes sur son parcours pour aller jusqu'au centre commercial. Mon Dieu, s'il avait réussi à rentrer dans le centre commercial, on peut imaginer le carnage qui s'en serait suivi. Ça fait encore froid dans le dos ce matin.
Et l'assaillant était connu pour des faits de droit commun, mais pas des services spécialisés du renseignement. Son profil reste encore flou. Selon le parquet, des éléments laissent penser qu'il était converti à l'islam. Selon des témoins, il aurait crié « Allahu Akbar ». Mais pour l'instant, l'attaque n'est pas considérée comme terroriste. 30e jour de grève contre la réforme des retraites. Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les syndicats. Reprise des discussions mardi dans le bureau de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Deux journées de mobilisation prévues la semaine prochaine à l'appel des syndicats. Ce sera jeudi et samedi. Face à cette situation, une réunion de travail s'est ajoutée à l'agenda du gouvernement hier autour d'Edouard Philippe. Côté syndicat, on ne lâche rien. C'est le message en tout cas d'Yves Verrier. Le secrétaire général de Force ouvrière appelle à amplifier la mobilisation pour que le gouvernement retire son projet.
Je dis pas retrait, mais ça revient
vous
à ça
dites
maintenant.
Plus retrait.
J'ai dit souvent, mettons cette mauvaise idée de côté, parce que c'est une très mauvaise idée. Mais à ce stade-là, je crois effectivement qu'il vaut mieux retirer ce projet de réforme. On peut négocier sur bien des aspects qui concernent la vie active, la vie au travail, la question des salaires, la question de la qualité des emplois, des jeunes qui ont du mal à rentrer avec des stages de plus en plus souvent.
Si l'âge
etc.,
pivot
etc.
de 64 ans est retiré, par exemple, est-ce que c'est acceptable pour vous?
Ce serait un recul de la part du gouvernement par rapport à ce qui a été annoncé, parce que l'objectif du gouvernement avec l'âge pivot, c'est d'aller plus vite que ce que ne lui permettra le système par points. On aura fait reculer le gouvernement, mais ça ne suffira pas, parce que la retraite par points, elle contient intrinsèquement les moyens demain pour les gouvernements à l'avenir d'agir sur les paramètres du système pour agir sur le niveau de la pension et de fait sur l'âge effectif auquel vous pourrez partir à la retraite.
Pas de retrait du texte, mais une révision de la copie, c'est ce que souhaite la CFDT. Un retour en arrière concernant l'âge pivot fixé à 64 ans. C'est l'avis également de l'aile gauche de la majorité. Le député LREM de l'Hérault, Patrick Vignal, l'a dit ce matin chez nos confrères de France Info.
On ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Mais effectivement, il faut amender. Et moi, j'étais un des premiers parlementaires à dire qu'il fallait avoir une autre réflexion sur l'âge pivot. Puis surtout, vous savez, j'ose le dire, les Français, c'est un peuple intelligent. On va parler de pédagogie. Il faut pragmatiquement expliquer aux Français qu'ils ne perdront pas dans cette réforme de retraite. C'est là l'essentiel. Donc oui, il faut avoir une nouvelle approche de cette réflexion sur la réforme des retraites. Elle devient urgente et indispensable.
Pendant ce temps, la mobilisation continue. Manifestation cet après-midi à l'appel de l'intersyndicale au départ de la gare de Lyon à Paris. Trafic toujours perturbé, même s'il y a une petite amélioration aujourd'hui en cette journée de retour de vacances. 7 TGV sur 10 aujourd'hui, mais un Transilien sur 5 et un TER sur 3 sur les rails. Là, ce n'est pas une action contre la réforme des retraites comme l'avaient fait les danseurs de l'Opéra de Paris, mais contre le plan d'économie à Radio France. Concert improvisé ce matin à l'Auditorium et dans le hall de la Maison Ronde. Une centaine de musiciens de l'Orchestre Philharmonique et du Chœur de Radio France ont joué notamment la 9e symphonie de Beethoven. Ils protestent contre le plan de la direction qui prévoit près de 300 départs volontaires. 50 postes menacés au sein de la direction de la musique qui regroupe les différentes formations musicales. Selon la direction, les concerts de la rentrée de ce week-end pourraient être annulés. Dracula est de retour. Le célèbre vampire assoiffé d'hémoglobine a débarqué sur Netflix ce matin. Une série en 3 épisodes, coproduite par la BBC, largement inspirée du roman de Bram Stoker, mais adaptée par les créateurs de la série britannique Sherlock. Et ça, ça change tout. C'est le conseil du week-end du service culture de la rédaction Alexandra Hakoun.
Avec le duo Marc Gatiss-Steven Moffat aux commandes, on s'attendait à une version moderne de Dracula, les deux scénaristes ayant transposé avec brio les aventures de Sherlock Holmes dans un monde 2.0. Il n'en est rien. Le début de leur Dracula, dont nous n'avons pu voir que le premier épisode, est on ne peut plus classique, comme dans le roman de Bram Stoker. L'histoire débute en Hongrie en 1897. Jonathan Harker, notaire au physique plus proche du zombie que de Keanu Reeves, ses ongles se détachent, son crâne est couvert de croûtes, a trouvé refuge dans un couvent face à deux bonnes sœurs. Le voilà qui entame le récit de sa terrifiante histoire. Son arrivée en Transylvanie...
Veuillez m'excuser, mais j'ai l'impression que le château est encore à bonne distance.
N'allons pas plus loin que cet endroit. Le comte viendra vous trouver ici.
Comment ?
Il peut sentir les gens.
Sa rencontre avec le comte Dracula.
Veuillez m'excuser.
Le vin était ouvert, alors j'ai pensé.
Vous souhaitez peut-être m'accompagner ?
Je ne bois pas de vin.
Sa séquestration, sa déchéance physique. Et juste au moment où nous voilà installés dans cette histoire que nous connaissons tous, tout bascule et il est là, le génie de Gatiss et Moffat, savoir jouer avec le spectateur. Lord Dracula vire alors vers la série féministe bourrée d'humour british avant de bifurquer encore.
Bonsoir, je mourrais d'envie de vous être présenté.
Et c'est totalement jubilatoire.
Dracula en série, donc à découvrir sur Netflix dès ce matin. Merci Alexandra Akoun. Autre conseil culture pour ce week-end, cette fois sur grand écran, séjour dans les monts Fuchun. Le premier film de Gu Xiaogang nous plonge dans une Chine intimiste. Cette longue chronique familiale sur la vie de quatre frères et de leur mère met en lumière un pays dont une partie de la population subit la marche forcée vers le progrès. Et pour cette année 2020, année de la BD, on vous propose de découvrir l'album qui a obtenu le prix de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, Préférence Système de Hugo Bienvenu aux éditions de Noël. L'histoire nous projette dans un futur proche, 2055. Le data de l'humanité est saturé, mais un archiviste décide de sauver des données culturelles. Tué avec sa femme dans un accident de voiture, leur bébé naîtra grâce au robot de la famille et c'est lui qui transmettra le devoir de révolte à l'enfant qui peut-être sauvera le monde. À découvrir donc en bande dessinée. Allez, on regarde la couleur du ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
La météo, c'est avec vous Jean-Michel Golinski.
Du soleil cet après-midi, du golfe du Lion à la vallée du Rhône, mais avec un vent très turbulent. Il y aura également du soleil sur les Alpes et la Corse, au nord de la Loire, sur le Poitou-Charentes, le centre et au nord de la Seine. Ciel d'éclaircies, parfois plus variable en cours d'après-midi, notamment près de la Manche et de la Belgique. Enfin, le ciel le plus chargé sera pour les régions se situant sur la diagonale Aquitaine, Massif central, frontière du Nord-Est, avec des températures de l'ordre de 6 à 8 degrés sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et en Auvergne-Rhône-Alpes, un maximum de 17 pour la Corse, de 14 à 16 du golfe du Lion à la Provence et de 8 à 11 sur le reste du pays. Demain, les températures vont un peu baisser avec souvent 0 à 4 degrés en fin de nuit, avec toujours du bleu pour le quart sud-est, à l'aide du vent fort, parfois à plus de 110 km à l'heure en basse vallée du Rhône. Ailleurs, la grisaille sera très répandue et souvent d'évolution lente.